Oui, merci. Je crois que c'est très important d'avoir entendu ces propositions et ce texte de Renaud van Ruymbeek, auquel nous serons toujours reconnaissants d'avoir été avec un certain nombre de ses collègues européens à l'origine de l'appel de Genève, qui fut vraiment un temps fort et un moment crucial de la révélation dans le public de ce thème des paradis fiscaux et des paradis judiciaires. Alors, que s'est-il passé depuis cet appel de Genève? En introduction, effectivement, il y a eu de plus en plus d'exemples. C'était un sujet encore un peu abstrait au milieu des années 90. Depuis, il y a eu beaucoup d'exemples style Enron, style Elf. Mais je veux dire aussi que beaucoup d'exemples, on peut le constater au quotidien. Je suis, en tant que magistrat actuellement, vice-président à la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris, autrement dit, je traite des affaires de droit pénal économique. Je veux dire, très nombreuses sont les affaires économiques dans lesquelles on trouve d'une façon ou d'une autre, des paradis fiscaux. Je vous donne un exemple dérisoire, puisque nous traitons donc en aval un certain nombre de dossiers qui sont préparés par le fameux pôle financier. Il s'en faut de beaucoup que nous traitions toujours de grandes affaires. Par exemple, hier, nous avons jugé, c'est anecdotique, une affaire de trafic de climatiseurs. Le marché est un petit peu tendu sur cette question en raison de la canicule, donc certains se sont mis sur le créneau. Effectivement, hier, quelques dizaines de climatiseurs comme ça perdus, mais dans ce petit dossier, minuscule dossier, je veux dire, il y avait quand même la société qui vendait cela, qui était domiciliée au Luxembourg et qui était composée de deux sociétés, qui était la filiale de deux sociétés basées aux îles Vierges. Ce qui est d'ailleurs symptomatique aussi, c'est qu'on n'a pas du tout traité ça, qu'en fait la personne a été poursuivie et condamnée pour travail dissimulé, pour n'avoir pas déclaré son établissement. Je veux dire, tout ceci c'est un symptôme, mais il y a beaucoup de petites affaires comme ça, parce que finalement c'est assez facile de recourir aux paradis fiscaux et aux paradis judiciaires, et le seuil s'est beaucoup abaissé. Alors depuis l'appel de Genève, il y a aussi eu effectivement cette construction internationale du sujet. On a beaucoup parlé des listes. Il faut rappeler, avoir toujours en tête qu'il y a trois listes, ce qui d'ailleurs nous donne un indice du caractère un peu hétérogène des enjeux, puisqu'il y a la fameuse liste du GAFI, qui vise plutôt la criminalité organisée. Il y a aussi la liste OCDE, qui vise plutôt la concurrence fiscale dommageable. Et puis il y a une troisième liste moins connue, qui est la liste du Forum de stabilité financière, qui vise les problèmes systémiques. Donc tout ça, ça mesure déjà un indice de complexité du sujet. Donc le sujet s'est construit à la fois sur le plan interne, sur le plan international. Mais, finalement, on peut se poser la question de savoir si on n'en est pas toujours à une certaine rhétorique de la transparence, cependant que se développe une pratique de l'opacité. Mais, je veux dire, on en est toujours à constater une plus en plus grande imbrication du légal et de l'illégal. Et à mon avis, c'est un des points très sensibles et très cruciaux quand on analyse le sujet. Et j'ajoute que sur le plan interne, les réactions du gouvernement et même le bilan judiciaire est extraordinairement ambigu et contrasté. Alors c'est ce dont je voudrais parler, effectivement, dans une première partie, pourquoi la mise en échec d'un certain nombre de politiques de lutte contre les paradis fiscaux et judiciaires, et dans une seconde partie, explorer ce qui pourrait rester encore à explorer pour que ce militantisme qui est le nôtre ne soit pas un militantisme de Sisyphe. Donc première partie, échec, ou mise en échec plutôt, d'un certain nombre de politiques. Je voudrais juste souligner trois points, trois grandes lignes d'attaque. Premièrement, il faut bien constater un certain échec de cette politique de liste dont on a déjà un peu parlé ici. Je veux dire, pourquoi? Mais c'est assez facile à comprendre. Je veux dire, tant qu'il s'agit de stigmatiser des États exotiques, comme la France l'a fait avec Nauru de façon tout à fait anecdotique et dérisoire, il n'y a vraiment pas de problème. Je veux dire, c'est quelque chose de lointain. Quand on en vient à s'interroger sur ce que peuvent être, sur ce qui peut se passer en Russie ou en Israël, on mesure que c'est déjà un peu plus difficile, que c'est un enjeu diplomatique un peu plus sensible. Et quand on en vient à s'interroger sur ce qui se passe aux Pays-Bas, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de régimes favorables à cet endroit, ou au Royaume-Uni, ou même en France, là effectivement, je veux dire, on se trouve face à une sorte d'impossibilité ou de très grande difficulté politique, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on en est revenu après beaucoup de débats diplomatiques à ces règles, à cette règle que l'on connaît beaucoup, nous autres magistrats, à savoir la loi est dure et la pratique est molle, on s'est contenté de l'adoption par ces pays, notamment pour la Russie et certains d'autres, de législation adéquate, et on s'est bien gardé de mettre en place des dispositifs permettant de contrôler l'effectivité de ces législations. La deuxième raison de l'échec de cette politique de l'île, c'était elle aussi facile à comprendre, c'est que ces places offshore sont les servantes des places onshore, et qu'il y a un lien très intime entre les deux, que des groupes industriels qui exploitent les places offshore sont basés fondamentalement dans des pays tout à fait classiques, qui sont les nôtres, Citibank, Enron, Parmelat, c'est pas, ont utilisé les paradis fiscaux, mais ce ne sont, ils sont basés chez nous. Des grandes entreprises publiques, EF, le Crédit Lyonnais, ont utilisé, et on le sait bien, les paradis fiscaux. Mais c'est bien sûr pas un problème de paradis fiscaux. De ce point de vue, les paradis fiscaux sont un symptôme et un moyen. Le problème, il est autre part, il est ailleurs. Et je lisais d'ailleurs, avant de venir ici, un ouvrage très intéressant qui vient de sortir, qui est signé par Pierre Lascoum et Thierry Godefroy, qui ont sorti à la découverte un ouvrage qui s'appelle « Le paradis clandestin », sous-titré « L'illusoire régulation des places offshore », et qui se pose la question, est-ce que finalement ce capitalisme clandestin n'est pas la part d'ombre dont a besoin le néolibéralisme pour prospérer ? Effectivement, c'est pas une sorte de furoncle, etc., c'est quelque chose qui est dans le corps politique et le corps économique, et c'est donc un peu plus difficile à traiter. Alors, je sais bien, on en a parlé ce matin aussi, que lorsqu'il y a une part d'ombre, les anglo-saxons ont conceptualisé ce qu'ils ont appelé le test de Dracula. Vous savez que lorsque l'ami, se développait dans l'ombre, certains ont dit, on le met en lumière, et le fait de le mettre en lumière fait que le système peut s'écrouler. Là, effectivement, c'était un petit sous-système du grand. C'était possible d'appliquer le test de Dracula, c'est pas toujours possible de le faire de façon un peu plus large. Mais quand Denis Robert a travaillé sur, là aussi, un point très ponctuel, qui était les chambres de compensation, finalement, c'était sa façon à lui d'appliquer au problème des chambres de compensation le test de Dracula, avec d'ailleurs un succès inégal et un combat intéressant et important, qui a fait progresser quand même le sujet sur cette partie-là. Des dérèglements, des dévoiements du système financier. Deuxième point, échec de la construction ou mise en échec de la construction des paradis fiscaux et judiciaires comme objet politique. Et je veux juste citer un exemple par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Je crois que le rapport de la mission blanchiment a été un travail considérable, qui force le respect. Et ce ne sont pas simplement des monographies, ça aboutissait aussi à des propositions très intéressantes. Qu'est-ce qu'il est devenu de ces propositions ? C'était interrogé là-dessus. Alors, certaines, effectivement, ont été rédigées par les auteurs même du rapport et ont trouvé application dans la loi sur les nouvelles régulations économiques. D'autres concernaient notamment les politiques visant la criminalité organisée, concernaient les infiltrations, concernaient l'introduction dans le code de procédure pénale d'un chapitre spécial sur la criminalité organisée. On en retrouve trace dans la loi dite Perben II, dont on a beaucoup parlé sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Mais pour vous montrer comment, à partir d'un sujet qui pouvait être discutable, mais qui était destiné à lutter contre la grande criminalité organisée, on s'est retrouvé vers quelque chose de beaucoup plus, dévoyé, en tout cas portant posant un vrai problème en termes de liberté publique. Qu'est-ce qu'on a fait dans la loi Perben II au départ? Effectivement, on a listé un certain nombre d'infractions, et par rapport à ces infractions, on a prévu des règles de procédure pénale tout à fait exceptionnelles, qui portent d'ailleurs atteinte aux libertés individuelles, mais on pouvait, à la limite, dire, pour les vrais sujets de grande criminalité, c'est possible. Mais à l'origine, l'application de ce texte était très large, et c'est simplement in extremis au Conseil constitutionnel que la question s'est posée, que le Conseil constitutionnel a dit... Si la police ou la justice, en début d'enquête, abuse de cette procédure, il y aura la possibilité d'invoquer la nullité en fin de procédure. Parce que ce qui était, proposé dans le texte original, c'était en réalité un système qui permettait de concerner environ, un gros cinquième, un quart de la procédure pénale. Autrement dit, on passait d'une répression de la criminalité transnationale, donc des vraies mafias, à quelque chose qui n'est pas du tout des mafias, mais qui a été construit comme une mafia en droit interne, autrement dit les mafias de banlieue. Mais on sait bien que les mafias de banlieue, c'est-à-dire c'est une construction politique, ce sont des bandes organisées en banlieue, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la criminalité transnationale. Autrement dit, il y avait une sorte de diversion, de dévoiement, de dérive, dès le texte à l'origine, sur la répression de la criminalité transnationale. On oubliait ça, et on avait un dispositif assez dangereux et tout à fait disproportionné pour lutter, ce qui par ailleurs est un vrai danger, mais pas du tout à la même hauteur, à savoir des bandes locales. En revanche, d'autres propositions qu'on trouvait dans les conclusions de la mission Blanchiment concernant le renforcement des effectifs de la police financière, concernant la mise à disposition d'officiers de police judiciaire spécialisés auprès des pôles financiers, concernant le contrôle de l'activité à l'étranger des banques correspondantes des banques internes. D'ailleurs, tout cela, on n'en a pas retrouvé trace dans la législation qui a été adoptée depuis, que ce soit dans la loi Perben II ou dans la loi sur la sécurité financière d'août dernier. J'ajoute qu'en revanche, il est fortement question, on en a parlé ce matin, d'une amnistie fiscale en rapport avec la cohésion sociale, pour financer la cohésion sociale, ce qui est une sorte de comble, je dirais effectivement, une sorte de retournement dialectique assez dangereux là aussi. Alors troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'échec des politiques et de l'action judiciaire. Alors sans doute y a-t-il dans un premier temps une autocritique à faire en nous autres magistrats. Il y a un certain nombre de problèmes techniques, tactiques, voire un manque de professionnalisme dans certaines circonstances sur lesquelles il faut nous interroger. Mais je crois que la raison principale de cet échec-là, le fait que le fameux pôle financier ait donné des résultats finalement assez insatisfaisants, que beaucoup d'affaires soient arrivées à un non-lieu ou se soient un peu écroulées à l'audience, dire tout cela, je crois qu'il faut avant tout en chercher l'origine dans une certaine schizophrénie de l'État. Un certain nombre d'entre vous ont sans doute lu l'intéressant bouquin d'Eva Joly. Eva Joly dit que l'obstacle essentiel dans un certain nombre de ses enquêtes, elle l'a trouvé au cœur de l'État lui-même. Elle a trouvé effectivement les services de l'État, soit des fonctionnaires, soit des personnes financées sur des fonds secrets, etc., faire obstacle à ces procédures. Autrement dit, nous sommes dans une configuration un peu particulière dont il faut avoir conscience. Nous avons un État de droit qui combat un État voyou, mais c'est le même et c'est le nôtre. Alors c'est déjà bien qu'il puisse y avoir ce combat-là. C'est déjà bien aussi que ce combat puisse se dérouler sans que coule trop de sang, ce qui est le cas dans d'autres États. Mais il est évident qu'on a là une sorte de figure de l'absurde de la difficulté extrême dans laquelle on se trouve. Et les conséquences, sont assez faciles à imaginer. D'abord, un discrédit relatif, un soupçon sur la justice, prétexte à la remise en, à la reprise en main de la loi Perben II, ce qu'on a vu effectivement dans la loi Perben II, des dispositions de procédure pénale dont on pense qu'elles vont aboutir à marginaliser encore plus qu'il ne l'était déjà le juge d'instruction. Et je veux simplement dire que je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec ce qu'a dit Renaud von Ruimbeck dans ce texte qu'on vient de lire. Je veux ajouter simplement un point. C'est-à-dire pour que Renaud von Ruimbeck puisse se confronter à tous les obstacles qu'il a décrits, encore faut-il qu'il puisse être saisi comme juge d'instruction, parce que c'est le parquet qui le saisit. Et on sait que les juges d'instruction, notamment au pôle financier, sont de moins en moins saisis. Deuxième conséquence, comme il y a quand même un problème de lutte contre la criminalité qui demeure, et qu'il y a une responsabilité politique quand même à cet égard, qu'il faut donner le change et afficher, il y a un autre discours qui se développe, où la justice, en quelque sorte, est perçue comme un obstacle. Là aussi, c'est extraordinairement dangereux, parce que dans la lutte contre la criminalité, il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Et sinon, c'est celui qui est au mauvais endroit, au mauvais moment, qui va prendre, et on n'aura pas beaucoup de résultats très efficaces. Mais quand je dis la justice comme obstacle, moi, je pense aux commentaires que faisait Mireille Delmas-Marty de la loi Perben II, qui dit on est dans une conception policière et guerrière de la procédure pénale. Donc on a un coût en liberté publique, en liberté individuelle, qui va être très important pour un résultat finalement assez aléatoire. Concrètement, on développe l'infiltration, le système des repentis, les gardes à vue de 4 jours, etc. Peut-être un rendement aléatoire qu'on peut en espérer. Mais par ailleurs, je veux dire, le parquet est repris en main et on sent bien que sur les affaires sensibles, précisément les affaires où la criminalité concerne d'une certaine façon la puissance publique, l'État, etc., bah, le parquet sera un peu moins efficace parce que il devra plus que jamais demander des autorisations et s'assurer de l'absence d'opposition du personnel politique. Et donc la troisième conséquence, finalement, c'est l'apothéose de la justice à deux vitesses. Foucault revient à l'ordre du jour aujourd'hui. Foucault parlait de la gestion différentielle des illégalismes. Et quand, les chambres, y compris les chambres économiques à Paris, sont requises pour faire de la comparution immédiate une fois par mois, parce qu'il y a de plus en plus de comparutions immédiates au tribunal de Paris, et qu'on se retrouve alors qu'on est employé dans une chambre économique pour traiter des affaires de racolage passif, je me dis qu'effectivement, en termes de protection de l'intérêt public, mais aussi en termes de respect des valeurs, de hiérarchie des valeurs, nous avons un vrai problème. Alors, après ce constat, très rapidement, quelle piste peut-on encore espérer, explorer, envisager? Et là, je fais effectivement un lien, là aussi j'explore trois points. Premier point, on en a déjà un peu parlé ce matin, et je fais le lien avec la suite de l'exposé. C'est certainement l'impératif de produire de la volonté politique. Alors, une fois qu'on a dit ça, je veux dire, c'est une mystérieuse alchimie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la société civile se sente interpellée par le sujet? Je pense qu'une affaire comme Metal Europe est typiquement une affaire qui pouvait donner lieu à une certaine interrogation politique de la société civile. Metal Europe, on sait bien, effectivement, c'est un sort assez cruel fait aux travailleurs de l'entreprise, mais c'est aussi des patrons voyous, voire des voyous devenus patrons, qu'il faut rechercher dans le canton de Zoug. Quand on voit l'affaire du Prestige, ce sont les mêmes peut-être de Glencore qu'il faut aussi rechercher dans le canton de Zoug, où ça se passe un peu comme à Liechtenstein. Il y a des magistrats à mi-temps qui sont notaires ou avocats l'après-midi, magistrats le matin, et que tout ça effectivement ne fonctionne pas très bien. C'est la raison pour laquelle Gérard Gourchon nous a dit ce matin, dans le cadre du conseil scientifique d'attaque, un des mots d'ordre, un des slogans de la campagne qui va se développer va effectivement être de dire « paradis fiscal, enfer social ». Mettre en rapport les deux. Ça ne suffit pas forcément pour interpeller l'opinion publique, mais effectivement se dire que cet argent qui va dans les paradis fiscaux, c'est pas simplement de l'argent qui s'évapore, même si c'est un peu injuste, ce n'est pas éthique que certains se l'accaparent, c'est aussi de l'argent dont certains autres sont privés. Comme vous le rappelez aussi Christophe Delcourt ce matin, ça veut dire que la taxation va de moins en moins taxer les sociétés, on va de moins en moins taxer une sorte de noblesse internationale qui pourra faire la grève de l'impôt, on va de plus en plus taxer en gros les classes moyennes, et spécialement effectivement les salariés. Alors ça dit, les choses ne sont pas forcément désespérées. Je me souviens que dans les années 80, le thème de la corruption n'était absolument pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que ceux qui s'interrogeaient sur le sujet, je vous renvoie à un numéro de la revue Pouvoir paru dans les années 80 sur le sujet, on répondait la fonction publique française est la meilleure du monde, la classe politique est issue de cette fonction publique, et il n'y a vraiment pas de problème, sinon quelques canards boiteux. Puis tout d'un coup, au début des années 90, peut-être à partir de cette fameuse amnistie du 15 janvier 90 sur les affaires politiques et financières, le sujet s'est construit et il a hanté le débat politique durant le début des années 90. Il ne faut pas exclure qu'à un moment, à partir d'une certaine situation, on revoit venir ce thème-là à l'ordre du jour du débat. Mais de cela, nous nous interrogerons dans la suite de ce colloque. Deuxième point que je voudrais explorer, c'est l'importance du potentiel européen. Alors là aussi, importance du potentiel et perplexité ou interrogation par rapport au débat tel qu'il se construit aujourd'hui. Moi, je relisais ce document qui nous est présenté comme une future possible constitution européenne. Je relisais notamment un article de la première partie qui nous dit « L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée ». C'est-à-dire qu'en tant que magistrat, qu'en tant que juriste, je m'interroge quand même sur la proximité des deux thèmes, même si on peut toujours employer le « et » entre les deux, c'est pas interdit, mais un même article pour dire sécurité, liberté, justice et concurrence libre et non faussée. Donc ça, ça m'interroge déjà. Ensuite, je regarde la troisième partie, cette fameuse trois parties qui est pas très constitutionnelle, qui est une synthèse des traités, qui est en fait assez difficile à lire. Mais je vais tout de suite dans cette troisième partie sur ce qui concerne le judiciaire et notamment sur ce qui concerne le parquet européen. Vous savez que le parquet européen, c'est une proposition qui était notamment faite dans l'excellent rapport de Mireille Delmas-Marty et d'un certain nombre d'autres juristes spécialistes de droit comparé en 97. Ça s'appelait le corpus juris. Il était question non seulement d'un parquet européen, mais il était question aussi de l'harmonisation d'un certain nombre de règles de procédure et de preuves. Et von Ruymeck a rappelé l'importance de cette harmonisation et l'harmonisation d'un certain nombre d'incriminations. Et notre ami Christensen a rappelé l'importance d'être d'accord sur les bases. Effectivement, si tout le monde cerne à peu près la même chose, mais qu'on a des définitions en droit pénal différentes, ça va coûter très cher de se mettre d'accord. Et donc, il y avait ça. Et puis, il y avait le parquet européen, qui est une structure un peu légère pour prendre des initiatives, et notamment, prendre des initiatives durant la période la plus sensible de l'enquête pénale, qui est la mise en état, la préparation. Mais donc ce parquet européen, on le revoit dans la troisième partie de la Constitution, et on a cette chose assez intéressante, surtout après la rédaction telle qu'elle a été modifiée le week-end dernier. Donc on a exigence de l'unanimité des États pour mettre en place le parquet européen compétent pour l'atteinte aux intérêts économiques de l'Europe.
C'est ce que je vais faire.
Et deuxièmement, également unanimité des États requise pour donner à ce parquet européen une compétence pour la criminalité transnationale. Autrement dit, on adopte une constitution, quand même un moment fort, qui va être adoptée par les parlements, voire mise au suffrage référendaire. Donc c'est quand même un temps très fort. Mais malgré cela, on se réserve la possibilité de définir dans les calendes grecques l'unanimité des États. Et il n'y aura rien dans la constitution, il y aura simplement l'exigence de l'unanimité des États. Et le week-end dernier, en plus, Londres a imposé que si jamais il devait y avoir une compétence en matière de criminalité transnationale, cette compétence ne devrait pas concerner la délinquance en matière fiscale. Voilà où on en est, ça ne veut pas dire, je crois effectivement que c'est très important, que rien d'important ne se fera sur des bases uniquement nationales, mais que la façon dont les choses se construisent sur le plan européen ne nous porte pas forcément à l'optimisme. Je pense que ces pistes doivent être explorées, et tant qu'elles ne peuvent pas l'être autant qu'on le voudrait à Bruxelles, pourquoi ne le serait-elle pas au moins à Strasbourg? Après tout, il faut se rappeler que le Conseil de l'Europe est à l'origine de la Convention européenne sur le blanchiment, et que dans le cadre du Conseil de l'Europe, il y a des missions d'évaluation, notamment sur les paradis fiscaux. Alors évidemment, c'est un langage moins tonique que celui de la mission blanchiment, mais c'est loin d'être méprisable. Je pense que c'est un travail intéressant qui est fait. Et d'ailleurs, je pense que l'apothéose de la mission contre le blanchiment, qui fut la réunion à Paris d'une assemblée des parlements européens contre le blanchiment, finalement, c'était un moment qui avait vocation à se poursuivre. Effectivement, après, il n'y a jamais rien eu. Et tout s'est passé comme si cette importante réunion d'un certain nombre de parlements européens sur la question du blanchiment, qui avait abouti à un certain nombre de propositions, on ne devait plus jamais en parler. Je pense qu'il faut en parler, parce qu'un certain nombre de propositions techniques sont très importantes et très intéressantes, même si elles sont modestes, loin d'être révolutionnaires, mais c'est quand même une excellente base. Mais à tout faire, peut-être que le Conseil de l'Europe serait une façon de réinvestir un endroit, une place pour réinvestir le sujet. Et enfin, dernier angle d'attaque, et je vais vite, sur le plan mondial, je pense que c'est un enjeu de développer l'embryon d'un droit pénal mondial, Convention de Palerme sur la criminalité organisée, c'est un texte intéressant, Convention de Mérida de décembre 2003, dont on n'a pas tellement parlé, mais sur la corruption, où il y a un passage assez développé sur ce que pourrait être la coopération judiciaire en matière transnationale. Donc ce sont deux textes qui ont été construits sous l'égide de l'ONU. Qu'ensuite, sur le plan mondial, on peut quand même songer à appliquer les lois existantes, que dans certaines situations, il y a déjà une compétence universelle, y compris les juridictions françaises, quand la victime ou quand l'auteur est un ressortissant national. Et je pense par exemple, à ce que propose une association comme Sherpa, dont William Bourdon, maître William Bourdon, est un des leaders. On dirait effectivement, ils ont proposé que soient poursuivis en France des entreprises françaises qui portaient atteinte de façon significative à l'environnement de pays africains et qui le faisaient en violation totale des règles de droit international. Alors, le problème, c'est que le parquet à Paris, puisqu'il faut quand même l'autorisation du parquet pour poursuivre à l'étranger dans ces circonstances-là, ne veut pas. Mais je veux dire, il y a des angles d'attaque possibles. Effectivement, il faut sans doute se garder de dérives qui feraient porter sur les épaules d'un seul État toute la criminalité internationale. C'est un peu le problème qui est arrivé à la Belgique. Mais il y a déjà une compétence universelle possible dans un certain nombre de situations pour la criminalité la plus grave. Et ensuite, dernièrement, troisième et dernier point, je pense qu'on peut continuer à penser des utopies, qu'après tout, la Cour pénale internationale, il y a 10 ans, était encore une utopie, et qu'on a vu le système se mettre en place, que ce que dit actuellement la sous-commission des droits de l'homme sur les questions de l'environnement, qu'a rappelé Corinne Lepage ce matin, ou sur les questions de normes relatives aux entreprises transnationales, pour l'instant, ce sont des papiers, etc. Mais, je veux dire, c'est riche d'avenir dans notre réflexion. Que la Fédération internationale des droits de l'homme propose aussi depuis quelque temps un tribunal économique international pour assurer une meilleure effectivité des droits économiques et sociaux, en se disant qu'après tout, il y a l'OMC qui est très puissante pour assurer l'effectivité du droit du commerce international. Il faudrait pouvoir inventer quelque chose qui soit à peu près aussi puissant pour l'effectivité des droits économiques et sociaux. On sent bien qu'aujourd'hui, c'est totalement utopique, mais on sent bien que conceptuellement, c'est assez pertinent et qu'il pourrait en sortir quelque chose. Et donc, dans ma conclusion, je voudrais rappeler trois enjeux en termes de grands principes. Je dirais effectivement, sur le plan national, je crois que l'enjeu, c'est bien celui de la séparation des pouvoirs. Et quand je parle du parquet, quand je parle des OPJ, finalement, le problème, c'est bien de donner à la justice des moyens suffisants quand il s'agit notamment de combattre au sein de l'État une certaine criminalité qui phagocyte un peu l'État. Après tout, si les collègues italiens ont été pertinents et forts dans l'opération main propre, c'est aussi parce qu'ils avaient cette indépendance relative par rapport à l'État. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu sur le thème fondamental d'une démocratie qui est la séparation des pouvoirs et qui devrait être un peu creusé s'agissant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Deuxièmement, sur le plan européen, je crois que le grand défi, c'est sans doute de reconstruire une souveraineté dont les États ont été dépossédés. Et effectivement, je vois qu'on se crispe de façon un peu dérisoire sur une souveraineté fiscale ou sur une souveraineté judiciaire, alors que par ailleurs, les États ont été dépossédés ou se sont laissés déposséder du reste d'une souveraineté économique. Et qu'on voit que tout simplement là, l'enjeu, c'est de marcher sur deux jambes ou de recommencer à marcher sur deux jambes. Ce concept, il a quand même des points d'appui, des déclinaisons. Quand j'ai parlé du parquet européen, du corpus juris, etc., je veux dire, on peut décliner ça en termes concrets. Et troisièmement, sur le plan mondial, je crois que l'enjeu, c'est tout simplement de réaffirmer toujours et encore l'équilibre nécessaire entre les droits de l'homme et le droit du commerce international, puisqu'on sait bien que le droit international progresse de deux façons. D'une part, par les droits de l'homme, des progrès des droits de l'homme, Cour pénale internationale, etc. Et d'autre part, de façon sans doute encore plus rapide, sous l'angle de l'unification d'un droit économique international, d'un droit du commerce international, l'enjeu, c'est de toujours respecter c'est de toujours avoir présent à l'esprit la nécessité de cet équilibre, parce que derrière tout cela, effectivement, il y a les paradis fiscaux et judiciaires, et derrière les paradis fiscaux et judiciaires, il y a l'exploitation des ouvriers, d'ouvriers dans les zones franches de certains pays du Sud. Il y a les marins dont on parlait ce matin, victimes du système de complaisance internationale. Il y a les victimes de la traite des êtres humains. Donc tout ça, finalement, c'est un enjeu de droits fondamentaux. C'est un enjeu en termes de dignité humaine. Alors je sais bien que ce sont là, de très grands objectifs, que ça peut désespérer certains qui auraient certaines hésitations, mais je pense aussi que le pessimisme de la raison est tout à fait compatible avec l'optimisme de la volonté, et c'est ce à quoi je vous invite. Je vous remercie.